Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International et bienvenue sur la Radio Mondiale pour parler tous ensemble aujourd'hui de football. Et nous donnerons ensemble le coup d'envoi du prix Marc-Vivien Foé, la 17e édition, est lancée aujourd'hui avec la liste des 12 joueurs africains de la Ligue 1 susceptibles d'être désignés le meilleur africain de la saison 2024-2025 du championnat de France. Tous les détails avec le chef des sports de RFI. Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors dans quelques instants, la révélation de cette liste des 12 noms très attendus, j'en suis sûr. Thomas Müller, poussé à la retraite par le Bayern Munich qui ne pense plus à lui pour la saison prochaine. Rattrapé par l'âge, le trentenaire champion du monde 2014 avait déjà pris sa retraite internationale. Ogre parmi les ogres bavarois depuis 17 ans, Thomas Müller n'aura eu qu'un seul club en Bundesliga en jouant plus de 700 matchs sous les couleurs du Bayern. David Lortolari nous aidera à évoquer ce personnage. Un deuxième club de Paris en Ligue 1. Le Paris FC est sur le podium de la Ligue 2, en bonne place pour être promu, directement ou indirectement. Propriété de la famille Arnaud, en tandem avec Red Bull et Jürgen Klopp, le club pourrait être, enfin peut-être, il pourrait rivaliser avec la concurrence et faire concurrence avec le PSG justement ou d'autres clubs de Ligue 1. En tout cas, objectif impératif, ce sera déjà la montée et peut-être que ça se passera, n'est-ce pas Ludovic Duchesne? Bonjour.
Salut Annie, bonjour à tous et à toutes.
Ça serait pas mal comme émulation de notre championnat.
Ce serait assez logique qu'une grande capitale comme Paris puisse offrir quand même deux clubs de haut niveau.
Alors logique, on l'attend depuis longtemps. Pas sûr, mais oui, très longtemps. Ouais. Il y a eu un Racing il y a bien longtemps.
Mais... ils ont été ensemble, le PFC et le PSG, dans les années 70.
On verra ça. Bonjour Hervé Penaud.
Mais quel plaisir d'être là, surtout quand on vient d'annoncer les meilleurs joueurs africains du championnat de France. Alors là, j'ai hâte de savoir. Je suis content de voir Christophe, d'ailleurs, ça fait très longtemps. Hein. C'est un chef qui vit comme ça dans son coin.
Non, pas trop. Ça va. On arrive à le débusquer de temps à autre. Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission avec David Finzel et Laurent Salé. Arnaud est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Marc-Vivien Foé, ambassadeur de l'UNICEF pour Cameroun.
Prix Marc-Vivien Foé, RFI France 24.
Frappe de Benseguir, Benseguir encore! C'est un génie! Le Monégasque, Elias Benseguir!
Balle de doublé pour Amine Koury! Koury, 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 Koury!
Et il y a des espaces là justement. Pour Habib Diarra
et Hakimi, le troisième.
Ah non, là c'est
injouable.
Là c'est injouable. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique.
Abdoulaye Touré vient libérer tout le stade océan. C'est Simon. Nantes comble son retard de partout.
Et oui, il y en a beaucoup des joueurs africains dans le championnat de France. Et vous en avez l'habitude avec les beaux jours. Revient donc le prix Marc-Vivien Foé, ce qui est logique, hein, puisqu'il faut attendre l'approche de la fin de la saison. Et nous en sommes à 27 des 34 journées de la Ligue 1 pour effectuer une revue d'effectifs de ces joueurs africains, ceux qui se sont illustrés et ceux qui seront sur cette liste. Alors Christophe Jousset, vous êtes le chef d'orchestre de ce prix Marc-Vivien Foé RFI France 24. Rappelons-le, le trophée Marc-Vivien Foé récompense le meilleur joueur africain sur une saison. Ces deux dernières années, nous avions récompensé deux joueurs de l'OM. Hein. Il y avait eu le Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, l'an dernier. L'année d'avant, c'était le Congolais, Chancel Memba. Pour cette 17e édition, il y a donc 12 noms sur votre petite liste. Le premier sur la liste, rappelons-le, une liste par ordre alphabétique, et ce n'est pas un détail.
Oui, c'est neutralité absolue. Hein.
Exactement.
On commence par Imad Abdelli, l'Algérien, milieu de terrain d'Angers, qui est l'un des meilleurs joueurs de champ d'Angers, du SCO d'Angers.
Ensuite, on a Ilyes Benseguir, marocain. Il joue à Monaco, un attaquant 20 ans.
Le Sénégalais Lamine Camara, qu'on avait déjà vu pointer le bout de son nez dans la liste l'année dernière, il revient toujours sous le maillot de Monaco, le milieu de terrain sénégalais.
Autre Sénégalais, Habib Diarra du RC Strasbourg, milieu de terrain de cette équipe qu'on voit remonter dans le championnat. Il a 21 ans.
Un gardien dans la liste, Yaya Fofana, le gardien ivoirien d'Angers.
Amine Gouiri, algérien de l'Olympique de Marseille, pour l'instant, hein, c'est les couleurs qu'il porte. Attaquant, il a 25 ans.
Ensuite, il y a Evan Guessant, encore un Ivoirien, qui évolue évidemment en attaque à l'OGC Nice et qui a 23 ans.
Achraf Hakimi, marocain du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons déjà, défenseur, il a lui 26 ans.
Le défenseur Moussa Niakate, le Sénégalais de l'Olympique Lyonnais, âgé de 29 ans.
Moses Simon, ou Simon Moses comme on l'appelle aussi parfois, le Nigérian, il est du FC Nantes depuis plusieurs saisons aussi, attaquant, lui il a 29 ans.
Le 11e de la liste, c'est Abdoulaye Touré, on entendait son nom dans la voix d'un commentateur tout à l'heure, c'est le milieu de terrain guinéen du Havre.
Et puis Ahmed Junior Traoré, ivoirien de l'AJ Auxerre, il joue en milieu de terrain et il a 25 ans. Alors, vous l'avez entendu, pour cette liste, il y a trois Sénégalais, trois Ivoiriens, deux Algériens et deux Marocains, et puis un Nigérian et un Guinéen. Comment est-elle établie cette liste, Christophe ?
Alors, on prend... c'est un travail assez long, hein, parce que...
Il y a plus d'une centaine de joueurs africains
alors,
en Ligue 1.
Alors, un petit peu moins. En fait, je me réfère... Il y a un bon outil pour ça, c'est le site internet de Transfermarkt, qui est très, très complet et toujours très actualisé. Et on prend donc les effectifs des 18 clubs de Ligue 1. Transfermarkt nous annonce 473 joueurs en Ligue 1 et il y a 95 joueurs africains. Donc, c'est là que le boulot commence parce que il faut sélectionner avec plusieurs critères. Le premier critère, c'est qu'il faut avoir joué au moins un match en équipe nationale en Afrique, dans une sélection africaine. Donc avoir passé quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes, sous le maillot de son équipe nationale sur le terrain, parce que il suffit pas d'avoir la nationalité. Hein. Oui. Si vous prenez par
on
exemple
connaît ça en sport,
si vous prenez par exemple Nel El Aïnaoui, le Lensois, il a joué pour le Maroc, oui, mais avec les U23 seulement. Donc pas de sélection chez Léa, pas d'éligibilité pour le prix faux. Et même chose pour Yevan Diouf, par exemple, le gardien de Reims, qui compte zéro sélection pour le moment avec le Sénégal. Donc ça, c'est le premier critère, au moins un match en sélection. Ensuite, il faut avoir joué la moitié des journées de Ligue 1 plus une, ce qui fait 18. 18 matchs, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, et parce qu'on est obligé d'anticiper un peu la liste. On ne sait pas si les joueurs vont faire le cut sur la fin de la saison. Mais bon, il y a quand même des tendances qui sont très fortes à ce moment de la saison. Et puis le troisième critère, évidemment, il est essentiel aussi. Pour être éligible au prix, il faut avoir été bon. Il faut avoir pesé sur le parcours de son club. Le parcours en Ligue 1, hein, on le précise, parce qu'à chaque fois, tous les ans, on nous repose la question. Qu'est-ce qui est pris en compte ? C'est la Ligue 1, le championnat de France. C'est pas la sélection, les performances en sélection. C'est pas la Coupe d'Europe non plus. C'est pas la Coupe de France. Voilà, c'est les performances en Ligue 1. Donc, on part des 95 joueurs supposés, susceptibles d'entrer dans cette liste. Et là, on commence à inscrire d'abord les incontournables. Ça vient vite. En général, c'est la suite qui est un peu plus compliquée.
Oui, il faut écrémer et en parler aussi avec certains de nos spécialistes.
Gens qui sont autour de la table, avec les rédactions de RFI, de France 24. On s'appuie aussi, par exemple, sur les notes de l'équipe, puisque les journalistes de l'équipe suivent les clubs journée par journée et qu'ils notent journée par journée chacun des joueurs. Donc, c'est quand même un bon indicateur. Et puis, à force d'écrémer, la liste s'affine, elle maigrit. Et puis, à la fin, il faut...
Vous n'avez pas 11 types, vous avez un 12 types cette année.
Ouais, alors on a remplaçant. Depuis le début, on dit 10 ou 12 joueurs. Cette année, c'est 12.
Ouais. Ouais. Encore un petit mot général sur cette liste avant qu'on consulte nos amis. C'est tous les postes sont représentés.
Oui, c'est pas tous les ans qu'il y a un gardien de but, notamment dans la liste. On se souvient d'Eniama, le gardien de Lille, le Nigérian, qui à l'époque avait gagné le prix Foé. Donc là, il y en a un, c'est Yaya Fofana. La composition de la liste est assez équilibrée, hein, puisqu'on a 4 attaquants, 5 milieux de terrain, 2 défenseurs et un gardien. Du point de vue des nationalités, vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure. Alors, vous avez dit effectivement 3 Sénégalais, 3 Ivoiriens, 2 Marocains. Alors, 2 remarques par rapport à ça. Sur l'ensemble des effectifs de Ligue 1, les 3 pays étrangers, c'est intéressant, les 3 pays étrangers les plus représentés, c'est dans l'ordre, c'est tous des pays africains d'abord, c'est dans l'ordre la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine logique à retrouver, oui, pas mal de d'Ivoiriens, notamment, dans, dans cette liste.
Qui se distingue sur le plan international.
Oui, absolument. Et puis, deuxième remarque, quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour regarder le palmarès du prix Fouet depuis qu'il a été créé en 2009, une époque où il ne s'appelait pas encore prix Fouet, d'ailleurs, eh bien, la Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus souvent gagné, qui totalise 5 victoires au prix Fouet.
Hervé Penaud, maintenant que vous avez découvert la liste...
Ah, vous m'avez dit, je suis heureux. C'est-à-dire, c'est une première chose.
Oui.
Absolument.
Qu'en dites-vous ?
Ah bah, c'est une liste qui me paraît tout à fait logique. Hein. Alors évidemment, on peut toujours discuter sur quelques noms, j'allais dire de fin de liste d'une certaine manière. Est-ce qu'on préfère un joueur à un autre, etc. Mais moi, pour moi, elle me convient parfaitement parce que se dégagent évidemment les meilleurs joueurs africains de la Ligue 1 et sans contestation à mes yeux. Donc ça se jouera entre quelques joueurs qui semblent se dégager, même si j'ai déjà évidemment un favori.
Oui, parce que vous allez voter. Alors pour Bien l'instant, l'ensemble de la liste, Ludovic Duchesne, qu'est-ce que vous inspire cette liste ?
J'aime bien. Je suis content que Christophe ait parlé de El Aïnaoui. C'était une de mes questions, qui est un très très bon joueur. Après peut-être Singo qui fait quand même une belle saison avec Monaco, mais sinon. Non, j'aime bien. Il y a des joueurs confirmés. Il y a des
Singo,
joueurs...
ça a été le point le plus épineux.
Bah, c'est celui auquel je pensais.
Y être ou ne pas y être, il était dans la zone.
Monaco est déjà bien représenté.
Ouais, c'est vrai que Monaco est bien représenté. Oui.
Mais voilà, moi je pense qu'il aurait peut-être mérité. Mais bon, après, tout ça, c'est assez arbitraire aussi. Mais sinon, il y a des joueurs en devenir. J'aime bien. Il y a 2-3 joueurs qui sont comme ça, à mon avis, qui promettent énormément. Il y a un gardien. Je trouve ça toujours bien de mettre un gardien quand c'est possible, évidemment. Et puis, il y a une star. Donc, c'est une belle liste.
Mais Diouf aurait pu être dans cette liste s'il a vu quelques minutes de jeu avec le Sénégal. Hein, parce que lui, il faisait partie des possibles.
Mais c'est peut-être un futur. Hein, même chose pour quelques noms, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus dans cette liste. Il y a de la rotation.
Jean-Philippe Bouchard. Mais
ce genre de liste est toujours délicat à établir parce qu'on a un peu un cheval, une alouette. C'est dur de comparer un gardien avec un attaquant. Quelqu'un qui est un défenseur à milieu. Enfin, c'est pas les mêmes qualités. C'est compliqué. En plus... On rappelle quand même que le football est un sport collectif, donc les performances individuelles se noient aussi dans les performances de l'équipe, d'où la difficulté de surnager quand on est dans une équipe en difficulté, par exemple, c'est pas du tout évident. Donc tout ça complique le choix pour établir la liste.
Mais c'est intéressant parce que le prix Marc-Vivien Fouet, justement, a déjà récompensé gardiens, défenseurs. Alors, les attaquants, parfois, nous éblouissent tellement qu'on va être obligé pratiquement de les distinguer. Mais c'est vrai qu'il y a, au niveau de la Ligue 1, peut-être aussi cette représentation. C'est-à-dire, comme on choisit clairement ceux qui sont internationaux africains, du coup, ça permet peut-être d'avoir... des choix différents.
Ça permet de mixer un peu la liste, évidemment.
C'est homogène, je trouve.
Un peu plus que, je pense au Ballon d'Or, évidemment, où souvent les buteurs...
Et ça fait bien longtemps qu'un gardien n'avait pas gagné le Ballon d'Or, si bien qu'on a été obligé de mettre un prix, le prix Yachine, pour justement faire gagner les gardiens.
Oui, exactement.
Non, mais il s'agit aussi de représenter les joueurs avec des clubs qui ne sont pas forcément super bien classés, mais qui pèsent. Abdelhi, par exemple, avec Angers, il est très important. Et son club n'est pas dans le haut du tableau, hein, mais par sa qualité.
Il y a deux Angevins,
oui.
Et il serait revenu en sélection algérienne, d'ailleurs, s'il n'avait pas eu une blessure contre Monaco. Donc c'est vrai que ça fait partie d'un des joueurs cadres de cette équipe d'Angers. Et lors de la bonne période d'Angers, c'était celui qui tirait l'équipe vers le haut. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, hein, parce qu'on a eu une discussion avant sur savoir qui choisir, etc.
Parce qu'il va falloir voter.
Mais après, il faut voter. Et là, c'est encore plus dur. Même s'il y en a un qui se dégage. Mais sinon, il faut voter.
Et c'est vrai que c'est pas simple.
Je me doute. Je vous connais, Annie.
Christophe, une chose qui est intéressante, souvent on avait remarqué, nous, que nos prix Marc-Vivien Fouet s'envolaient du championnat de France. Souvent quittaient le championnat de France pour d'autres auteurs, ce qui fait qu'ils avaient été bien remarqués, et pas seulement par notre
Pépé.
Équipe. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, Boufal, on en a plein. Malgré tout, vous avez trouvé un 11 des ex...
Alors, 10, mais...
10, pardon.
10,
là, il n'y a pas de remplaçant.
Qui sont montés un jour sur le... Alors, il y en a qui ont gagné le prix Fouet, puis il y en a qui sont montés sur le podium. Et j'ai trouvé que 10, c'était quand même beaucoup. Ils sont là, ils continuent d'être... Alors, ils ne sont pas dans la liste, mais pour des raisons extrêmement variées. On a parlé de Singo, qui a failli y être, mais on trouve aussi Seko Fofana. qui est arrivé au mercato. On trouve Chancel Bemba, lui, alors pour une toute autre raison, puisque
son entraîneur... Il n'y a qu'à Marseille qu'on le trouve pas, quoi.
Si on arrive à le trouver, on est fort. Hein.
Mais il est sur l'effectif, en tout cas. Bah, il est toujours sur la liste.
Autre ancien lauréat. Nabil Bentaleb, qui était troisième l'an dernier, lui, c'est encore une autre destinée, puisqu'il a eu un pépin cardiaque très, très grave et qu'il rejoue depuis quelques semaines seulement sous le maillot de Lille avec un défibrillateur. Terem Moffi, c'est moins grave, mais c'est quand même les croisés qu'il s'est fait l'été dernier, donc ça lui a complètement sabordé sa saison. Mmh. Andy Delors est revenu aussi en Ligue 1 aussi, il n'a que quelques matchs.
Il est revenu,
ouais.
On dit.
Croyez pas. Hein.
Bah, on quelques voit pas matchs. Trop sur le terrain. Mais...
Non, ouais. Se cache bien.
Younis Abdelhamid, on peut le citer aussi. Ouais. André Ayou, lauréat il y a maintenant 10 ans, oui, le temps passe, Hervé.
Oh oui, le temps passe. Et je me souviens bien de l'émission, il était avec sa maman.
Oui, hein, absolument.
Dans le grand studio d'RFI.
Il était très heureux.
Ouais. Très heureux d'avoir le...
Et on citera encore Tino Kadewere et Wabi Kazri, qui sont eux aussi montés sur un podium un jour, une année du prix Foé.
Bon alors, il est l'heure, Hervé, que je vous pose la question.
C'est le compte à rebours.
Allez, Hervé, de toute façon, les bulletins, on les publie, on sait qui vote pour qui. Mais en tout cas, moi, j'aimerais vous demander, alors à cette heure, puisqu'on en est à la 27e journée qui a été jouée, ça dépendra, mais on va aller jusqu'à la 32e ou 33e pour ce qui est du vote. Est-ce que vous avez déjà un favori,
tiercé favori? Alors, tiercé, je ne sais pas encore pour le tiercé. En ce qui concerne le favori, oui, c'est Achraf Hakimi. Il sort d'une saison incroyable. Il a une capacité physique à faire des efforts monumentaux. Tactiquement, il s'est beaucoup amélioré. C'est un pion essentiel de cette équipe du Paris Saint-Germain, même défensivement.
Il est régulièrement sur la liste, mais c'est vrai que...
Non, mais il n'avait jamais eu l'impact qu'il a pu avoir cette année. On lui a même donné le capitanat.
Bon,
son entraîneur...
Il est deuxième l'année dernière, derrière Aubameyang.
Oui,
c'est la quatrième fois qu'il est nommé dans la liste des prétendants au titre.
Mais là, on a l'impression qu'il y a lui et le reste du monde. Vous vous rendez compte, la saison du Paris Saint-Germain, et dans cette saison du Paris Saint-Germain, c'est un des hommes forts. Ce n'est pas simplement un homme de complément. C'est quelqu'un qui a porté le brassard de capitaine. Son entraîneur a même dit, pour moi, c'est le meilleur arrière-droit du monde. Arrière-droit ou ailier droit, j'en sais rien, parce qu'il n'est pas vraiment...
Il est là.
Et c'est vrai que c'est un symbole de ce Paris Saint-Germain, du symbole du Paris Saint-Germain d'Enrique. Et puis, on voit toutes les qualités qu'on aime aussi dans le football, parce qu'il est défenseur, mais offensivement, il est capable de trucs incroyables.
Ludovic ?
Oui, ça m'embête de dire un peu pareil que Hervé.
Ça, je comprends. Moi non plus,
mais
je
n'aime
pas.
Face à l'évidence, je pense qu'on dit, je ne vais pas aller à l'encontre de ça. Non, pour moi, Kimi, bon, moi, je vais suivre ma logique. Déjà, la dernière, je le voyais vainqueur, donc il avait fait deuxième.
Là, c'était plus étonnant.
Donc, je vais continuer à le mettre devant. Non, je le trouve sur cette liste, qui est très belle, parce qu'il y a des joueurs très prometteurs, on va en parler sans doute. Mais je trouve qu'il est vraiment très au-dessus du lot, parce qu'à son poste, c'est peut-être le meilleur au monde, tout simplement. On parle même pas que de la Ligue 1. Et on voit bien qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui survole son sujet en ce moment. Donc, il a toutes les qualités. Il progresse. Je trouve qu'il a encore progressé. Il est peut-être plus régulier à des moments l'année dernière où il disparaissait un peu. Mais je trouve que même cette année, sur certains matchs où le Paris Saint-Germain est moins bien, c'est lui qui va porter l'équipe, donc il a toutes les qualités. Et comme l'a dit Hervé, il joue quand même à plusieurs postes avec Luis Enrique, c'est logique. Donc non, il est vraiment totalement complet, physiquement, techniquement.
Honnêtement, il a quand même un défaut, il n'est pas très bon comme gardien de but, j'ai trouvé.
À l'entraînement, tu l'as vu. Ouais.
Le pauvre, on l'avait appelé au secours ce jour-là. Jean-Philippe ?
Ça fait bien longtemps qu'on est d'accord ensemble avec Hervé, donc ça n'a pas changé.
Depuis notre première canne, nous avons fait notre première canne ensemble.
C'est vrai qu'on a envie de... Concernant Hakimi, on a envie de se faire un peu violence, se surveiller et de se dire, bon, est-ce qu'on n'est pas influencé par sa surexposition ? Comme il est au PSG, on le voit beaucoup avec le Maroc. Est-ce qu'on ne le voit pas presque trop et est-ce qu'on ne le voit pas meilleur qu'il n'est ? Donc moi, j'ai essayé de réfléchir par rapport à lui-même, par rapport au Hakimi de l'an dernier, en fait. Et je trouve qu'il a encore progressé, il est encore plus décisif. Quand on voit son jeu sans ballon sur le terrain, quand on le voit jouer et que l'action se déroule pas de son côté, il continue à avoir de l'influence dans sa partie de terrain. Il est très autoritaire vis-à-vis des arbitres, des adversaires. Enfin, il s'impose comme un patron de l'équipe, ce qui est assez impressionnant.
Depuis le départ d'Mbappé,
ce qui est assez impressionnant parce que, mine de rien, il a quand même 25-26 ans, donc il est quand même relativement jeune, mais c'est vraiment un taulier aujourd'hui. Il a perdu son meilleur pote avec le départ de Mbappé. Finalement, c'est lui qui le remplace comme presque leader technique de l'équipe. Donc finalement, Hakimi, par rapport à Hakimi, c'est encore meilleur que l'an dernier.
Et donc, à tel point, Annie, qu'il a pas de remplaçant pour moi au Paris Saint-Germain, en tout cas attitré. On met Neves, on met Zaire Emery, on met Luis Enrique, mais il n'a pas vraiment de remplaçant.
Et on pourrait ajouter qu'il est très offensif, il prend beaucoup de risques, il marque pas mal de buts d'ailleurs, mais en général, quand il poursuit ses actions, il n'y a pas de danger pour l'équipe quand elle n'aboutit pas ou quand elle est prématurée. C'est toujours bien pensé, en fait. Donc là-dessus, moi, pour moi, effectivement, il est en tête de liste.
Bon, Christophe, il n'y a pas match.
Bah attendez, il y a quand même Evan Guessant.
Voilà, ce que je vais dire. Ça, ce sera mon numéro 2, je crois.
Ah, Evan Guessant, 11 buts, 7 passes décisives, l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1.
Et, OGC Nice, hein.
OGC Nice.
Ivoirien.
Et l'OGC Nice n'a pas démarré un match sans Evan Guessant, quoi. C'est du 100% titulaire, c'est quasiment du 100% de minutes jouées. Hein, donc,
et Christophe, lui aussi, a drôlement progressé. Voilà. Vraiment. Par rapport au Guessant de Saint-Etienne, hein, je trouve qu'il a énormément de progression à tous les niveaux, lui. Et c'est vrai qu'il sera, en tout cas pour moi, il est sur le podium. Et c'est un joueur très complet.
Tu veux dire.
Non, il est passé par Saint-Etienne aussi, il me semble, non ? Une bêtise ? À Nantes, c'est sûr. Mais il venait de Saint-Etienne. Mm-hmm. C'est une bêtise.
Faut vérifier.
En tout cas, elle a progressé, ça j'en suis sûr. Ne serait-ce que par rapport à Nantes, hein, où ouais. Il faisait des rentrées pas toujours satisfaisantes. Donc c'est vraiment un joueur qui a acquis énormément de confiance. Et c'est vrai qu'à Nice, il est titulaire indiscutable.
Ouais. Non, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur, moi, pour tout vous dire. Même quand il était à Nantes, je trouvais qu'il avait quelque chose. Je trouve que c'est un joueur à l'ancienne. C'est pour ça, alors c'est pas mal l'idée de la progression d'Hakimi, parce que moi je crois que c'est aussi l'idée de la progression de Guessant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il sera encore meilleur l'année prochaine, largement meilleur dans 2 ans. Et on a la sensation d'un joueur à l'ancienne. Parce que nous, pour les plus anciens, enfin eux surtout, moi je suis assez jeune, mais pour les plus anciens, on disait qu'un joueur arrivait à son top niveau à peu près à 28 ans, 29 ans, surtout un attaquant. Et là, aujourd'hui, comme les attaquants et les joueurs sortent tellement vite qu'à arriver à 21-22 ans, on croit déjà que la personne est vieille. Et lui, il a 23 ans, mais avec cette progression linéaire à l'ancienne qui fait qu'il monte petit à petit, qu'il progresse petit à petit. Et là, ce qu'il est capable de faire, il a une puissance physique assez incroyable. Il est capable d'éliminer, il est fort dos au but, il va vite, il est puissant. Alors, il reste encore parfois un peu maladroit. Alors, il a mis 11 buts, hein, mais il doit encore progresser sur ce plan-là. Il a pas mal d'axes de progression. Il lui faudra peut-être un club intermédiaire encore entre Nice et un grand club, si un jour il va dans un grand club. Mais franchement, je trouve qu'il a tout d'un grand dans les années à venir.
Il est arrivé en fait à l'OGC Nice en 2020, là où il a été formé. Ouais. Mais depuis, il le prête en fait. Et alors, il y a eu le FC Lausanne. Donc il a joué en Suisse et de 2022 à 2023 c'était à Nantes avant de revenir et d'être titulaire.
Il y a eu un Guessant mais c'est un autre joueur. Mm-hmm.
C'est vrai.
Bon, on a 3 votes là qui sont assez clairs hein, sur. Mais bon, faut rappeler quand même qu'il y a à peu près entre 80 et 100 votants. Hein, donc
c'est
un échantillon. Et puis alors après, c'est maintenant que s'ouvre, puisque la liste est maintenant publique. C'est maintenant que s'ouvre la période du vote qui va durer 3 semaines. Il y a des choses qui vont se passer. Il suffit qu'un Guessant, un Ahmed Junior Traoré plante un doublé ou deux, vous voyez.
Soit décisif à un moment ou à un autre, oui.
Voilà. Donc la messe n'est pas encore dite.
Donc Christophe, d'ici le 12 mai, donc, qui sera le jour où nous remettrons officiellement le prix Marc-Vivien Fouet au lauréat, qu'est-ce qui va se passer? Le jury va se mettre en route, c'est ça?
Voilà, ils vont être sollicités. Et puis je vois au moins 4 votants là dans le studio. donc des anciens joueurs, les consultants que vous entendez sur Radio Foot régulièrement, les rédactions de RFI, de France 24, de MCD, Monte Carlo, Doualia. Donc tout ça va être soumis à un vote. On leur demandera...
C'est une centaine de personnes quasiment dans notre jury.
Ouais. On leur demandera, comme chaque année depuis 2009, un tiercé. Et à chaque première place, on donnera 5 points. À chaque deuxième place, on donnera 3 points. Et un point pour une troisième place dans un vote. Et puis, on fera les totaux. Voilà. Et ça va nous faire nous occuper, nous passionner là, pendant les semaines qui viennent.
Et tout cela, vous pouvez en savoir beaucoup plus sur chacun des 12 nommés de cette liste, les 12 joueurs africains nommés. Grâce au site RFI.fr où il y a les portraits.
Des mini-bios de chacun des 12 prétendants au prix Marc-Vivien Fouet 2025 pour succéder donc à
Pierre-Emerick Aubameyang.
Exactement. Donc voilà, le suspense est lancé. Nous aurons le tiercé.
Une question, est-ce que le Paris Saint-Germain a déjà eu un prix, Marc-Vivien Fouet?
Non.
D'accord.
Non, bizarrement. Ouais. Et il y a déjà eu des Africains.
Ouais, mais il y a peu de joueurs.
On peut
aussi impactants.
Aurier. Il y a eu aussi son dérapage sur Periscope, oui, qui l'avait un peu plombé.
Ouais,
peut-être. Il y a eu évidemment l'ancien Lillois. Idrissa Ganagay, qui je crois avait fait un meilleur classement de 6e de mémoire. Hein, je garantis pas, mais c'était quelque chose comme ça. Mais il y a pas tant d'internationaux africains non plus qui sont passés ces dernières années.
Ils sont plus sud-américains en fait, les Parisiens.
C'est surtout il n'y en a pas tant que ça.
Une terre brésilienne. Il n'y avait pas de prix comme pour Georges Weah, par exemple.
Ah bah oui, d'ailleurs.
Didier Okocha, Georges Weah et Toko.
Je me dis qu'un jour, on devrait s'amuser à remonter un peu le temps et à faire comme si à l'époque de Weah, le prix Fouet avait existé.
Un trophée d'honneur.
Il n'y aurait pas eu photo, je crois. Oui,
à Weah, je crois que c'était entendu.
Oui, l'affaire était réglée.
Merci beaucoup Christophe Jousset, et donc d'ici le 12 mai on aura...
J'adore cette période-là parce que comme ça je le vois une fois par an.
Le temps.
Voilà, à l'année prochaine Christophe.
Au revoir Hervé.
Non mais alors je vous indiquerai son bureau parce qu'il est quand même pas trop loin du nôtre Hervé. En attendant de continuer cette émission, merci beaucoup Christophe. Hein, en attendant, continuons en musique. Vous parliez Brésil. Un peu de musique venue du Brésil. C'est le groupe Sandália de Preta avec Uli Costa et ça s'appelle Roupa de Tirar.
Como é que eu faço pra te ver de novo? Me diga como te encontrar. Chega de papo, eu quero te pegar, te amassar. De ir a roupa de tirar, que eu vou lá te encontrar, pra te ver, pra te ter, pra beijar, pra te amar. Eu vou lá, pode ir pra tocar a roupa de ir a roupa de tirar. Como dedilhar nessa luz do amanhã que entra no seu quarto. Ser seu lençol, cobertor, travesseiro. Demorou, demorou, demorou. Demorou, beijo meu corpo inteiro. Tenho certeza que vai ser gostoso. Baby, já volto pra continuar. De ir a roubar, de tirar. Que eu vou lá te encontrar, pra te ver, pra te ter, pra beijar, pra te amar. Eu vou lá, pode ir pá. Tô com a roupa de ir a roubar, de tirar. Que eu vou lá te encontrar, pra te ver, pra te ter, pra beijar, pra te amar. Eu vou lá, pode ir pá. Tô com a roupa de ir a roubar, de tirar. Que eu vou lá te encontrar, pra te ver, pra te ter, pra beijar.
On continue dans Radio Foot International après cette parenthèse brésilienne. Sandália de Preta et Uli Costa, Roupa de Tirar.
Le geste de Thomas Müller. Et il fallait ça, bien évidemment, pour venir fêter ce 710e match sous les couleurs bavaroises de génie Thomas Müller. Pour venir inscrire son 245e but officiel avec ce Bayern sur l'ouverture de Sergio Henry, le pivot magistral. Et le Bayern mène 2 à 0.
Thomas Müller, Thomas Müller, Thomas Müller, Thomas Müller.
Au revoir.
Au revoir, Thomas Müller. Quand on entend ce nom d'abord, je suis sûre que plusieurs images vous viennent en tête. Hein, celle d'un footballeur d'abord en maillot rouge, dévoué, infatigable, buteur dans des moments décisifs et surtout qui encourage toujours ses camarades. Et puis un visage un peu sans âge, alors sans âge, mais quand même rattrapé par son âge. Il a fêté ses 35 ans en septembre dernier. Et le Bayern Munich, son club de toujours, celui où il a débuté à l'âge de 10 ans, eh bien, pourrait ne pas renouveler son contrat en fin de saison. En tout cas, c'est ce qu'on croit savoir grâce à la presse allemande. Il ne serait plus prolongé, lui qui aurait aimé peut-être faire encore une saison de plus. Alors, quel retentissement a eu cette info en Allemagne, où Thomas Müller est non seulement un Bavarois emblématique, mais aussi c'est un international. On se souvient de lui quand on l'a découvert, en tout cas à l'international, c'était à la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. Et puis surtout, eh bien, on l'a connu au-delà de Munich, puisqu'il était champion du monde en 2014 au Brésil. Oui. David Lortolari, notre source allemande dans cette émission, est en direct. Bonjour, David.
Guten Abend, bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Oh, wie geht's.
Guten Abend. On essaye de répéter et d'apprendre avec vous et d'en apprendre plus. David Lortolari. David Lortolari, pourquoi le Bayern se séparerait-il de ce joueur emblématique maintenant ?
Emblématique, oui, c'est le mot. Il y a Louis II en Bavière et il y a Thomas Müller, hein, c'est à peu près ça. Non, en plus, c'est amusant parce qu'il est né à mi-chemin entre Munich et Neuschwanstein, le fameux château. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment son royaume. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, Annie. Il y a plusieurs raisons. Thomas Müller, 35 ans, multiples services rendus. Vous avez parlé avec quelques chiffres via la voix de Jean-Charles Sabatier à l'instant aussi, qui ont construit la carrière légendaire de Thomas Müller. Services rendus, mais le Bayern, même si c'est un club avec de la relation humaine, avec une considération pour les anciens, le Bayern ne fait pas de cadeaux sur le plan de la compétitivité sportive. Donc Thomas Müller, 35 ans, aujourd'hui ne joue presque plus. Son entraîneur le fait entrer en fin de match. Ça devient pas ridicule, mais on commence à se dire que c'est un joueur qui est un joueur d'appoint. Or, un joueur de ce standing-là ne peut pas vraiment être un joueur d'appoint. Donc sur le plan sportif, il y a des raisons pour se dire adieu, comme ça avait été le cas avec Ribéry par le passé, après des saisons et des saisons, comme ça avait été le cas avec Robben aussi. Il y a un moment où le club dit, on discute, on s'assoit tranquillement dans un fauteuil, confortablement à la Zebenerstrasse au siège du club, et puis on dit, on arrête. Vous avez raison, Annie, de préciser qu'il aurait voulu, lui, faire une saison de plus. Ça, c'est pas un secret. Mais le Bayern se dit, très gros salaire, compétitivité sportive qui diminue, un budget un peu difficile cette année qui ne va être équilibré que par les 30 millions d'euros apportés par la Coupe du Monde des clubs. Et on se dit, voilà, des gens comme le Roi Sané, des gens comme Serge Gnabry, des gens comme Thomas Müller, malgré leur statut de légende, peut-être devrait-on s'en séparer dès cet été.
Et en Allemagne, on en parle beaucoup de cette possible arrêt de Thomas Müller dans les rangs du Bayern ?
Bien sûr, parce que c'est le Sportbild, l'hebdomadaire de référence du mercredi, qui a sorti l'information. Ils sont souvent très bien informés. Et derrière, le Kicker, qui est l'autre hebdomadaire de référence, a confirmé après quelques jours de recherche et de confirmation. Donc derrière, évidemment, toute la presse allemande un peu sérieuse reprend, les éditorialistes chez nos confrères de Sky, la presse locale aussi à Munich, parce qu'il y a plusieurs journaux sérieux dans la ville de Munich, et tout le monde discute avec chacun son point de vue. Pour certains, ce serait une fin un peu hâtée. Pour d'autres, c'est le moment d'aller faire un petit tour en Major League Soccer aux États-Unis pour Thomas Müller. Chacun a son avis, évidemment. Et bon, voilà, on suppose que le joueur n'est pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire. Mais le club, apparemment, a arbitré. Et il me semble que l'information est sérieuse, Annie.
Pour l'instant, il n'a effectivement rien confirmé. Et des discussions doivent exister. Mais Jean-Philippe, est-ce que pour un joueur si important, si emblématique, les statistiques sont dingues, parce que il a disputé 741 matchs, c'est plus que celui qui avait fait le plus, et c'était Sepp Maier, donc c'est plus que Oliver Kahn, que Gérard Müller ou que Franz Beckenbauer. Il a marqué 247 buts, ce qui est aussi beaucoup, remporté 32 titres avec le club. Est-ce que malgré tout, s'il avait choisi de partir et de l'annoncer, ça serait différent ? Est-ce que c'est un peu une sortie ratée pour un si grand et emblématique joueur ?
Non, mais là, il y a un petit coup de pression de la part du club, parce que Thomas Müller, c'est une légende. au Bayern. C'est vraiment, enfin c'est la statue du commandeur. C'est on peut pas toucher. Donc là, le club, en laissant fuiter la possibilité que le contrat ne serait peut-être pas renouvelé, met le pied dans la porte pour négocier, parce qu'il est hors de question de se fâcher avec pour le Bayern avec Thomas Müller. Donc on va essayer de la part du club de renégocier un salaire à la baisse, très fortement à la baisse, et une reconversion au sein du club, comme fait très souvent le Bayern avec ses anciens joueurs. Voilà, ça, c'est la logique. Après, on peut avoir le point de vue du joueur qui, lui, entame un bras de fer et dit « Mais moi, je veux conserver mon salaire ou un bon salaire et faire une année de plus et on verra après. » Donc là, on est clairement dans des négos en ce moment. Et là, il y a un petit coup de pression de la part du club et le Bayern, il a ses réseaux dans les médias. Sportbild, c'est un des axes de communication du Bayern. On voit bien comment ça se propage. Donc, on va voir comment ça se passe, mais c'est clairement le début d'une négociation. Là.
Ludovic Duchesne, en même temps, on a déjà surnommé ce club de FC Hollywood, vu parfois ce qui s'y passe et tout, mais il donne pourtant l'image d'un club très familial quand même, où justement, il y a... la pression à travers la presse existe, mais on a l'impression que les relations sont un peu différentes dans ces clubs allemands par rapport à d'autres grands clubs européens.
Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui font partie de la direction et de ce club. Et en général, c'est un bon signal pour un club. Et le Bayern a toujours montré cette voie. Moi, je suis assez étonné. Ça, l'avis de David m'intéressera. Mais je suis assez étonné de la manière dont ça se passe. Jean-Philippe Ladis, c'est un monument. Mais j'ai l'impression que depuis l'arrivée de Max Eberl, le directeur sportif, on a envie de faire un peu le ménage. On a envie de
changer d'air.
On a dit aussi à Koeman que ce serait bien qu'il aille voir ailleurs, etc. J'ai l'impression qu'on veut renouveler un peu l'effectif.
Ah, puis ils ont clairement un problème de masse salariale.
Oui, parce qu'ils touchent énormément d'argent, mais comme tous les grands clubs qui donnent énormément d'argent à ses joueurs, parce qu'il a 35 ans, et je regardais, Griezmann, il a 34 ans, donc c'est des joueurs qui sont loin d'être finis, même si lui, c'est vrai que sur le terrain, il fait quand même plus fatigué, il fait plus les mêmes courses, il a plus la même rapidité. Bon, voilà, mais c'est un joueur qui représente tellement. Moi, je trouverais dommage que ça se termine comme ça, et je serais très surpris qu'un club comme le Bayern, s'il engage vraiment ce que dit Jean-Philippe, je trouve ça très décevant de la part de l'organigramme du Bayern, je trouve ça très décevant.
David, vous trouvez ça décevant aussi ?
C'est-à-dire, il y a une mission très difficile qui a été fixée par les dirigeants au directeur sportif Max Eberl, que Jean-Philippe citait à juste titre. Une mission très difficile, c'est-à-dire garder la compétitivité sportive, ce qui veut dire en clair se qualifier pour une demi-finale de Ligue des Champions chaque saison. C'est ça que vise le Bayern, il faut être clair. Et pour garder cette compétitivité sportive, il faut en même temps mesurer effectivement la masse salariale. Donc des joueurs comme Leroy Sané, Harry Kane évidemment, qui lui est appelé à rester quelques années, Serge Gnabry, Kingsley Coman, que citait Ludovic à l'instant. Tout ça, ce sont des... Oui, absolument. Ce sont des très gros salaires. Alors, on mise sur certains d'entre eux. Cet axe, effectivement, avec Kimmich et Harry Kane est un axe fort qu'on veut conserver pour 3, 4, 5 saisons, peut-être plus. En tout cas, pour le premier cité. Mais derrière, évidemment, il y a des choix difficiles à faire. Quitte à se fâcher, peut-être, ou à être un peu dans l'incompréhension avec un Coman, avec un Sané, avec un Gnabry qui joue de manière un peu intermittente. Pour Müller, Jean-Philippe a raison, c'est une légende. Il est appelé, tout le monde le dit à l'unanimité, à prendre des fonctions ultérieurement, un petit peu comme Philippe Lahm, même si Philippe Lahm s'est éloigné un moment parce qu'il a été l'organisateur de l'Euro, parce qu'il a voulu prendre d'autres fonctions aussi à la Fédération. Mais Thomas Müller, c'est le Bavarois pur sucre, donc on le veut au club dans le futur, un petit peu comme Ribéry dans un autre style.
Souvenons-nous d'un autre joueur de 35 ans, comment ça s'est passé l'an dernier, c'est Lewandowski, qui était lui aussi un peu, pas en conflit, mais voilà, le Bayern l'a pas renouvelé.
Après, s'il est dans la balance avec Florian Wirtz, par exemple, c'est sûr que là, il n'y a pas photo, parce que l'avenir, c'est évidemment Wirtz et c'est pas Thomas Müller. Mais après, il y a des manières de le faire aussi. C'est la sortie qui est pas bonne, là, je trouve.
La difficulté, c'est de faire du sentiment, évidemment. Mais d'un autre côté, est-ce que vous pouvez faire autrement ? C'est pas simple pour des dirigeants, mais si, au final, ils arrivent à trouver un bon accord pour qu'ils puissent travailler pour le club de manière pérenne, voilà, tout le monde sera content.
Vous parliez de légende, vous parliez de joueurs emblématiques. Il est arrivé, il avait l'âge de 10 ans. Il avait commencé dans un petit club à côté de chez lui, à, vous le disiez, David, à
Wilhelmstraen.
Non, oui,
mais c'était pas ça.
À une vingtaine de kilomètres, s'appelle le Théas. Pâle ou Fâle, je ne sais pas comment on dit. Bon, bref. En tout cas, il symbolise tellement ce club. Écoutez, on va l'entendre. C'est lui qui va répondre quand il y a des enfants du centre de formation qui ont une dizaine d'années, c'est-à-dire l'âge qu'il avait lui quand il est arrivé dans le club. Et écoutez, une question de l'enfant et puis les réponses gentilles de Thomas Müller.
Je m'appelle Nicolas, je viens de Cracovie et je me demandais si vous aviez toujours voulu devenir joueur professionnel.
Je suis ravi d'être un footballeur professionnel. J'ai toujours été passionné de foot, surtout pendant ma jeunesse, lorsque je jouais avec l'équipe des jeunes du Bayern. Cependant, mon objectif principal n'était pas de devenir un joueur professionnel. J'allais sur le terrain pour m'entraîner, parce que j'aimais ça, pour gagner des matchs et pour m'améliorer, car cela me procurait un sentiment de bien-être. Je ne me suis jamais dit « je dois absolument devenir footballeur professionnel » et si je n'y arrive pas, alors tout aura été en vain et dénué de sens. Je ne me suis jamais mis autant de pression. Bien sûr, j'ai toujours été ambitieux, mais je n'ai jamais perdu le plaisir du jeu. Pour moi, le football a toujours été une passion, mais pas un métier.
Alors David, on entend le plaisir qu'il a eu pendant sa jeunesse de venir là et depuis toujours, disons, ne jouant que pour un seul club. Et ça devient tellement rare que c'est beau d'être souligné et de parler de cette fidélité. Mais il y a aussi, quand il dit « je n'ai jamais perdu le plaisir du jeu, c'était ma passion », peut-être que, par contre, s'il a tant aimé jouer, il rentrait pas non plus dans le cadre d'un grand attaquant. Là, je parle en tout avec l'accent marseillais, en grand attaquant, mais un tueur comme on en a vu parfois. Lui, le style de Thomas Müller est peut-être un peu moins élégant, un peu moins joli qu'on a vu sur d'autres joueurs.
Beaucoup dans l'évitement d'ailleurs, il a été mis dans, parce que ce sont les 125 ans du club cette saison, cette année, et donc il y a différentes festivités, il y a différents 11 de rêve qui sont concoctés par les médias, et chez les amis du kicker, il a été placé derrière Gerd Müller et Robert Lewandowski, que vous avez cité il y a quelques minutes. Ça veut dire aussi que c'est un joueur derrière l'attaquant traditionnel, et c'est un joueur d'évitement, et c'est un joueur aussi qui a toujours cherché l'équilibre à Nîmes, aussi à l'extérieur du terrain. Il a toujours communiquer, on sentait que dans sa communication, c'était sa bouffée d'oxygène d'aller auprès des chevaux de l'écurie de sa compagne, Lisa, qui est une championne d'équitation. C'était une façon pour lui de sortir un peu du football tout en restant dans sa campagne bavaroise.
Il se promène avec ses chiens, en famille,
oui,
il le
raconte
aussi.
Et puis là où il n'était pas dans l'évitement, c'est sur la fête de la bière, non?
Non, mais vous vous souvenez...
Ça, on ne le dira pas.
Dis-le, David.
Non, mais c'est vrai, c'est un style à lui tout seul. Il a, un peu comme moi, il a gardé la même coiffure pendant 25 ans. Donc ça, c'est tout à fait remarquable dans le football moderne. Et oui. Et puis, je crois que c'est un homme de fidélité. Donc, c'est vrai que s'il devait y avoir une tension, une mésentente avec le club, ça serait peut-être seulement un temps, mais ça serait un peu une déception pour les supporters qui sont full crédit derrière lui. C'est-à-dire que Thomas Müller, effectivement, vous l'avez dit d'emblée, c'est le chouchou à Munich et c'est l'incarnation du club.
Nous, ce qu'on adorait aussi, c'était son sens de l'humour, son côté facétieux. Et Dieu sait qu'il l'a eu. Alors, on se souvient de ce petit message qu'il avait posté une fois, juste avant de rencontrer le Paris Saint-Germain. Ça n'avait pas porté chance au Bayern. Et on se souvient, on l'a entendu tout à l'heure de son au revoir. Mais écoutez-le, là, c'était lorsque le Bayern avait rencontré le Real Madrid. C'était pas cette saison, mais l'année d'avant, quand il y avait des matchs aller-retour.
Today, I felt very good, but... Germany is listening. The tactics for the next game.
Bring them in. Bring them in. The two of us.
Get
the two of them.
What's up?
Ça va?
Alors, on l'entend qui dit oui, alors le match, la manière dont ça s'est déroulé. Puis tout d'un coup, il aperçoit Tchouaméni qui, lui, va répondre à une autre interview de sortie de terrain et qui dit « Non, mais attendez, je ne vais pas tout dire parce que Tchouaméni va écouter la tactique pour le match retour. » Et ça aussi, David Lortolari, c'est quelque chose qui est très apprécié. Alors, les réseaux sociaux, évidemment, orchestrent tout ça désormais. Mais il y avait ce petit côté amusant et de camaraderie de la part de Thomas Müller.
Oui, tout à fait, avec en plus, sinon un dialecte, du moins toujours un vocabulaire, des verbes descriptifs des matchs, de l'atmosphère autour des matchs, très Thomas Müller, c'est-à-dire qu'il emploie un vocabulaire aussi, un lexique, que personne d'autre n'emploie dans le football, avec des mots un petit peu imagés, avec des... Voilà, alors ça n'est pas du dialecte, ça n'est pas de l'argot, ça n'est pas un patois, mais c'était des termes qu'on n'entend jamais, même de la part d'autres bavarois du football en Allemagne. Donc il y avait à la fois... Enfin, il y avait, parlons pas au passé, il joue encore, il va jouer cette semaine, je suppose, mais voilà, c'était un joueur avec un style particulier, pas forcément très bling bling, pas forcément très ostentatoire, mais effectivement toujours de l'humour, avec aussi Annie. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interroger une ou deux fois aussi à l'occasion notamment de stages d'avant-saison. Aussi un grand professionnalisme, c'est-à-dire la considération pour la question du journaliste, un respect, une vraie capacité à répondre avec des arguments, c'est pas seulement l'humour, c'est pas seulement la surface, après, c'est aussi du contenu. Thomas Müller, un joueur intelligent, disons.
Après, David, il devrait faire école d'ailleurs.
Un type de caractère dont on n'a pas parlé le concernant, c'est que sur le terrain, il était des fois très... Il a énormément de caractère. Et oui. On l'a vu des fois parler à ses coéquipiers de manière très véhémente. C'était quelqu'un qui pouvait s'accrocher beaucoup avec les autres. C'est le genre de joueur qui... Vous avez pas envie, vous aimez bien l'avoir dans votre équipe, mais vous avez pas envie de l'avoir en face parce qu'il est pénible à un point et que même avec ses partenaires, je sais pas si David va confirmer, mais il pouvait des fois être très dur. Il a dit des mots extrêmement durs et limite à de la méchanceté envers d'autres joueurs de son équipe des fois. Mm-hmm.
Oui, dans des débriefings et puis sur le terrain, tout le monde l'a vu bien sûr, même avec la télévision, c'est-à-dire des grands gestes, des grands moulinets des bras pour impulser du pressing. C'est un joueur collectif par excellence, Thomas Müller. Et je pense que avec un style particulier, un style individuel, un style unique peut-être, mais un joueur collectif par excellence, assez inqualifiable, assez inclassable en tout cas, vraiment singulier. Et moi, c'est ce que je retiendrai de ce joueur-là sur le terrain en tout cas.
Et on va l'écouter commenter le tirage au sort du Mondial des clubs, alors qu'il sera peut-être, la dernière compétition internationale qu'il fera avec son club. Le Bayern Munich est dans le groupe C avec Auckland City, Boca Juniors et le Benfica.
What a nice draw for the first.
Boca Juniors, Benfica, Auckland, c'est un magnifique tirage pour cette première édition du Mondial des clubs. Nous avons hâte de disputer la compétition dans quelques mois. Allez le Bayern, mia sans mia.
Yes, I'm here.
Hervé, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui s'énerve contre le Mondial des clubs là. Finalement, la perspective de découvrir d'autres confrontations amuse Thomas Müller.
Mais il a raison. Ça prouve qu'il est encore jeune. Ce qu'il faut garder dans la vie, c'est son enthousiasme. Et donc, il a encore de l'enthousiasme pour le football, ce qui lui permettra certainement de rester dans les structures du Bayern, plus comme joueur, évidemment, mais comme dirigeant. Et je pense que son regard, son œil vont être très intéressants pour le Bayern, pour la suite de l'histoire du Bayern et son histoire avec le Bayern.
Merci beaucoup David Lortolari de vos lumières toujours intéressantes.
Au Wiedersehen.
Et on vous accueillera la semaine prochaine. Au Wiedersehen, cher David Lortolari. Les amis, on garde le sujet de la Ligue 2 et du deuxième club parisien pour demain. Je suis désolée, ce ne sera pas vous. D'autres camarades donneront leur avis. On parlera du Paris FC demain. On avait beaucoup de sujets aujourd'hui autour de l'actualité. Merci à tous. Et vous retrouvez sur le site de RFI tout ce qui concerne donc cette 17e édition du prix Marc-Vivien Fauré. Bonne soirée.
Salut.
Et merci à tous. À bientôt. À demain.